France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Quand on prend du lait, on peut le transformer par fermentation lactique en yaourt ou en fromage.
Conserver des légumes sans chaleur, sans froid, en gardant toutes leurs propriétés, ça, c'est le miracle de la lactofermentation.
Par exemple, pour conserver du chou, eh bien, on faisait fermenter le chou et on gardait le chou dans son acidité.
Et c'est comme ça qu'on obtient la choucroute.
Les bactéries dangereuses pour la santé ne supportent pas l'acidité. Santé, si ça sent bon goûter, ça goûte bon manger.
Ah, oh, ça pue.
Les spotis fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent.
Ah oui, comme une fosse septique.
Eh oui, ça peut sentir fort, les produits fermentés. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster du vin au pain. En passant par le fromage, la sauce soja, le café, le poivre, notre ordinaire alimentaire est peuplé de produits fermentés. Mais la fermentation est devenue depuis quelques temps un stimulant terrain d'exploration et de création culinaire. Dans la gastronomie, elle est sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes, et notamment dans la tête d'une paysanne, cueilleuse, vigneronne, fermenteuse, installée en Dordogne. Tienne Uendo, bonjour.
Bonjour François Régis.
Vous êtes belge?
Oui, tout à fait.
On ne vous en veut pas du tout, on adore les Belges.
Moi aussi.
Vous pratiquez la fermentation et vous la pensez même, vous l'appréhendez dans un essai très inspirant. Fermentation, rébellion, petite philosophie de la fermentation aux éditions des Équateurs. On va voir avec vous ce que la fermentation dit de notre rapport au vivant, en quoi cette pratique que vous considérez comme joyeuse et créative a une portée à la fois écologique, politique, poétique. On va même voir que la fermentation développe d'étonnants super-pouvoirs. On est ravis de vous accueillir, UN. Et comme le plaisir est toujours au centre de cette émission, on ne va pas se priver pour goûter et expliquer quelques-unes de vos meilleures recettes. Il y a des bocaux de légumes, de condiments, de fruits sauvages partout sur ce plateau. On va se régaler. Vous animez d'ailleurs, hein, je crois, UN, des ateliers fermentation au château Combriac, puisque c'est dans ce château que vous travaillez avec votre compagnon Florent, en Dordogne.
Exactement, c'est là qu'on a installé depuis 2018, donc c'est à Bergerac, aux portes de Bergerac, et donc de tous les étés, on a des déjeuners sauvages où on fait déguster nos vins et les produits de la fermentation qu'on fait, et également aussi je donne des ateliers de fermentation.
Très bien, on viendra y participer, un de ces quatre. Hein.
Obligé.
Bon, Dominique sera plus intéressé.
Et t'offres des grands professionnels, bien
par
sûr.
Par le vin de Château Combriac, mais avec nous, bah, vous l'avez entendu, hein, évidemment, avec nous pendant toute l'émission, on n'échappera pas à notre super chroniqueur vin, Dominique Cutin, bien sûr. Notre chroniqueuse cuisinière, Céline Maguet également, bonjour à tous les deux.
Hello.
Bonjour. Dominique.
Mais moi, je vais vous parler bière, avec les lambics, les gueuses, les criques, qui sont l'expression la plus singulière de ce que porte la planète bière. Donc, on va prendre la direction de Bruxelles, donc une ville, évidemment, qui est chère à notre invité.
Et vous demandez même votre nationalité belge?
La mienne? Ah bah écoutez, il se trouve que je suis né le jour de la fête nationale belge. Ça me donne quand même une légitimité assez puissante.
On le savait, c'est vrai. C'est vrai, en effet, je me souvenais de cette anecdote. Céline?
Aujourd'hui, je vais déclarer ma flamme au piment fermenté.
Yes, piment fermenté, très intéressant. Réagissez dans notre émission en direct sur franceinter.fr ou sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com et retrouver toutes nos infos, nos podcasts, les recettes de notre invité UN et nos bons plans sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour entamer cette émission sur les secrets et les pouvoirs de la fermentation, je vous propose, chers amis, de vous attabler dans un étonnant restaurant qui fait de la fermentation et de toutes ces techniques un moteur, une ligne directrice, une raison de vivre. J'ai fait une halte cet été dernier à Cormery, un village de Touraine très connu pour son...
Bon, voilà.
Pas si connu que ça pour son macaron. Oui, le macaron de Cormery.
Mais bien sûr.
Et c'est aussi le village qu'a choisi un jeune couple qui dresse le couvert dans une belle bâtisse centenaire entourée d'un jardin luxuriant. Imaginez un restaurant de campagne, particulièrement conscient et engagé, qui ne travaille qu'en circuit court et qui s'inspire, vous allez le voir, de techniques très lointaine de fermentation pour transformer et sublimer des ressources paysannes. Ça va vous parler, UN. Allez, je vous emmène pour une immersion dans ce petit écosystème gourmand.
Je suis Lorraine Attia, avec Stéphane Henault, on a ouvert notre restaurant Les Roseaux Pensants il y a 3 ans.
Donc on est sur un restaurant axé circuit court, donc on travaille uniquement avec des producteurs autour de nous et avec une cuisine avec un fort accent sur le végétal. Là ici vous avez un géranium qui a une odeur et un goût un peu de noix de coco. Comme on travaille qu'avec des produits locaux, on n'utilise pas ou vraiment très 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 peu d'épices. Et à la place, on va utiliser plutôt des plantes aromatiques qui vont avoir des saveurs vraiment intéressantes et qui vont remplacer les épices.
Combien de plantes aromatiques, potagères en tout ?
Aujourd'hui, je pense qu'on a une trentaine de variétés. Et l'idée, c'est d'étoffer un petit peu notre gamme au fur et à mesure des années.
Et on peut aller voir comment ça se passe en cuisine ?
Bien sûr, je vous emmène. Donc, nous sommes en cuisine et donc je vous présente Stéphane.
Bonjour.
Bonjour.
La fermentation est au cœur de votre démarche culinaire.
Totalement. Moi, je suis un passionné de cuisine. Hein. J'ai un parcours un petit peu particulier parce que je suis autodidacte. Et la fermentation, elle est venue très naturellement pour diverses raisons. La première, c'est l'ouverture sur le monde, parce qu'en fait, on se rend compte que les produits fermentés, on les retrouve dans toutes les cultures. La deuxième, c'est surtout la démarche éco-responsable. On travaille comme en relation directe avec des producteurs. Leur surplus de production, avant même que le produit soit en terre, on réfléchit déjà à la façon dont on va le transformer. Et la fermentation, ça nous donne vraiment un champ des possibles assez important. Et enfin, la recherche du goût, l'acidité, hein, qui manque souvent en France, ou alors qu'on a tendance à catégoriser dans les agrumes et dans le vinaigre. Mais en fait, on a aussi l'acide lactique, on a d'autres acides qu'on retrouve justement dans ces processus. Hein, le vin, le fromage, la bière, hein, c'est notre patrimoine, mais la fermentation aussi en cuisine à sa place, c'est ce qu'on aime aussi un petit peu exprimer dans notre restaurant.
Vous me montrez deux, trois choses que vous faites ?
Oui, bien sûr. Alors le tempeh. Normalement, on le retrouve en Indonésie. On inocule une spore, un petit champignon, sur des graines de soja cuites. Et on va laisser ces graines-là dans des conditions de température et d'hygrométrie particulières, autour de 30 degrés, 75% d'humidité environ. En fait, c'est les conditions qu'on retrouve en Indonésie. Et en fait, on peut décliner le tempeh avec plein de céréales et plein de légumineuses. On peut même les mélanger entre elles. Ici, vous avez du quinoa, du berry, donc on a de la chance d'avoir du quinoa en France. L'intérêt, c'est de faire vivre le terroir.
Vous diriez que ce tempeh-là, ça ressemble à quoi spontanément on pense à un fromage.
Ah oui, bien sûr, parce que là, en fait, avec le mycélium, on a un palais de quinoa, en fait, qui s'est relié grâce à la fermentation, et il est velu. Velu comme on peut retrouver sur certains fromages, hein, ça existe.
Une espèce de duvet, en fait.
Exactement.
De flore.
Ouais, une flore, c'est totalement l'idée d'une flore, et c'est ça qui va apporter le goût au tempeh. Donc là, vous n'allez pas retrouver le goût du quinoa, hein, vous allez retrouver le goût du tempeh de quinoa.
Combien de temps il faut pour fermenter un tempeh en partant de ces graines de quinoa locales ?
Les Indonésiens, eux, ils aiment bien aller jusqu'à presque 48 heures, parce qu'il y a un petit goût d'ammoniac qui va se développer. Nous, les palais français occidentaux, c'est un petit peu fort pour nous, même si voilà, on aime bien aussi les choses prononcées. Donc moi, je laisse entre 24 et 36 heures. Ça vous dit de goûter un petit morceau de tempeh ?
Mais carrément !
Donc les Indonésiens, normalement, ils le font frire. Donc là, je prends le tempeh. On a presque l'impression que c'est un petit camembert. Ou... non, mais vraiment. Et ça se tient. Hein. Là, je le fais frire 3 minutes. Le petit clin d'œil qu'on peut faire aussi, c'est avec le Japon, parce que c'est très proche du koji. Koji, hein, qui est quand même la mère des fermentations, puisqu'à partir de là, on fait le saké, le miso, voilà, toutes les spécialités japonaises. On en fait également au restaurant, mais on va le transformer dans un second temps. Là, le tempeh, c'est fait pour être cuisiné.
Joli mont doré.
Exactement. On va pousser encore la coloration en rajoutant justement encore une fermentation dessus, donc du miso. C'est un laquage à base de miel, un peu d'huile d'olive et de miso.
Miso de quoi ?
Là, c'est un miso de riz et je chalume. C'est ce qu'on fait beaucoup au Japon avec les aubergines ou avec d'autres types de préparations.
Ouais, on obtient carrément une caramélisation. C'est ça, ouais. On dirait la surface d'une crème brûlée.
C'est ça. Voilà. On est vraiment dans la rondeur. Hein. Totalement umami, on est dedans. Hein. On a de la gourmandise. Et là, on peut se dire, OK, un plat végétarien qui se construit autour de ça, pour ceux qui veulent moins manger de viande, ça peut être une piste à explorer.
Parce que le tempeh, au-delà du goût, nutritionnellement, c'est tout bénef.
Alors c'est tout bénef parce que déjà ça va vous faire varier votre alimentation, vous allez manger des céréales, des légumineuses, mais alors en plus le quinoa, on a tous les acides aminés essentiels, des protéines. Après ça reste un produit free, hein. Faut rester raisonnable, mais non c'est un produit santé quand même. Ce qui est sûr c'est que la fermentation en général a son avenir, le koji, les miso, les soja c'est sûr et certain, c'est déjà le cas, on le voit beaucoup en cuisine. Le tempeh, il y a un petit travail à faire, moi j'y crois parce que c'est un peu le plat signature du restaurant. De toute façon, il faut explorer. Moi, je pense vraiment qu'on a compris maintenant. On a nos produits, on a des très beaux terroirs. Inspirons-nous des techniques d'ailleurs. Intégrons-nous dans la gastronomie française et on va faire des choses formidables.
Le tempeh de quinoa bio du Berry, pratiqué par Stéphane Hénaud au restaurant Les Roseaux Pensants. On est donc à Cormery, à une trentaine de kilomètres de Tours. Allez vous attabler dans cette table épatante pour vous frotter à des sensations tout à fait nouvelles, celles des produits et des préparations fermentées, comme ce tempeh, T-E-M-P-E-H, originaire de Java, probablement plus largement d'Indonésie, hein, et qui est un peu le truc du moment, j'ai envie de dire, le tempeh.
Le tempeh, c'est formidable, et en fait, ça réunit tout ce qu'on doit savoir dans la fermentation. C'est à la fois écologique, c'est vraiment low-tech, donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de besoin de matériel pour la pratiquer chez soi. Moi, je fais du tempeh, donc en 24 heures, on peut avoir un tempeh. Donc ça ressemble à un nougat quand on le tranche, ça se tient
comme un nougat. Oui, ça ressemble à un nougat, c'est étonnant.
C'est absolument incroyable. Donc, moi, chez moi, j'utilise une glacière de camping, un chauffe-aquarium, je mets un peu d'eau au fond, je prends un bac inox, j'ai mes graines de soja, parce que traditionnellement, ce sont des graines de soja qui sont utilisées. Je prends des graines de soja cuites, dépelliculées, je le mets dans ma petite installation low-tech, et 24 heures après, j'ai du tempeh. Mais on peut aussi faire ça dans une marmite norvégienne, donc c'est-à-dire une casserole qu'on va entourer de couverture en laine. Ça va garder la chaleur, ça va pouvoir permettre de produire ce tempeh, ou dans un four avec la lumière allumée, ça marche aussi. Donc c'est écologique, et en plus c'est très accessible. On est tous capables de faire ce tempeh chez nous, et c'est bon, il y a un goût absolument incroyable.
Absolument, un goût incroyable, très profond, très long en bouche, très satisfaisant, pourrait-on dire. La seule chose, c'est que pour faire démarrer cette fermentation, qui se pratique donc à l'indonésienne avec de très nombreuses légumineuses, en fait, alors on utilise le soja, mais on pourrait utiliser des lentilles, des pois chiches. Alors on peut utiliser
des cacahuètes, des graines de lin,
des noix de cajou. Pour les viandards qui sont en PLS, vous écouter.
Vous ne croyez pas si bien dire, Dominique, parce que c'est vraiment une viande de substitution avec une texture très charnue.
Dans 100 grammes de tempeh, il y a autant de protéines que dans 100 grammes de bœuf. Donc c'est vraiment une alternative extraordinaire pour les viandards.
Alors ici, on la pratique effectivement, Stéphane l'a pratiqué avec du quinoa, qui est une céréale sur le plan culinaire, même si sur le plan botanique, on sait que ce n'est pas une graminée, mais c'est de la famille de l'amarante. Ça marche aussi effectivement avec le quinoa. La seule chose, c'est que pour démarrer cette fermentation, il faut donc ce que l'on appelle ces spores, c'est-à-dire ces champignons, un starter. Et là, le starter, il faut se le procurer.
Il faut se le procurer, mais c'est pas très compliqué. En fait, il y a des personnes qui vendent en fait des petits paquets de spores qu'on peut se procurer facilement. Et ensuite, c'est sur Internet, par exemple fermentationculture.eu, je crois. Vous recevez ces spores par un courrier ordinaire, dans une petite enveloppe timbrée, et vous en avez pour des mois, puisque une toute petite enveloppe, un petit sachet de 5 grammes, vous fait faire du tempeh pendant des mois et des mois.
Stéphane Hénaud a lâché un mot qui est un peu un mot magique, un mot-clé que l'on utilise beaucoup dans la gastronomie, peut-être un peu trop. On en use et on en abuse. C'est umami, qui serait un peu la promesse gustative de tous ces produits fermentés. L'umami, c'est comme dit...
C'est le côté savoureux, voilà. C'est le côté englobant.
La cinquième saveur des Japonais.
Exactement. Ouais.
Qui apporte beaucoup de satisfaction et de bien-être gustatif. Il y a une histoire de chimie derrière ça. En quoi les produits fermentés ou en quoi certains processus de fermentation peuvent aboutir gustativement à ce fameux umami.
La fermentation, en fait, elle va développer l'acide glutamique. Et le glutamate, c'est un acide aminé qui est présent dans la plupart des protéines. Mm-hmm. Et donc, ça va se développer, ça va enrichir le produit. Donc, ça va donner du goût, de la saveur, une complexité aromatique que vous n'avez pas avec des produits simplement cuits. Donc, il y a vraiment cette profondeur, cette densité. Et donc, typiquement, la poutargue, le parmesan et les choucroutes, les produits lactofermentés, les fromages vont avoir cette umami qui va se développer.
Leçon de fermentation avec Tien Huyen Do. Vous allez voir qu'elle est absolument passionnante. J'ai eu un vrai coup de cœur pour son essai qui fait le point de manière très didactique et aussi philosophique sur la fermentation que vous pratiquez au quotidien comme une espèce d'hygiène de vie. Fermentation, rébellion, petite philosophie de la fermentation aux éditions des Équateurs. Je vous en recommande très chaleureusement la lecture. C'est Laurent Thomas et Maria Pasquet qui réalisent cette émission avec Benjamin Wagon, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Allez, vous allez voir que Catherine est totale à l'ouest. Il me fait penser à Dominique Hutin. Et nous, on perd pas le nord sur France Inter.
Je ne comprends pas tout, je ne sais rien sur le rien, encore moins sur le tout. Qui du soleil ou de la terre se tourne autour? Qui, je l'oublie toujours. Moi je suis total à l'ouest, moi petit bichon maltais. c'est à l'ouest qu'on voit le soleil se coucher. Et c'est à l'ouest que tourne l'usine à rêver. Et c'est là que je suis né pour au troubadour. Non, sans trompette ni tambour. Mais plus tu iras vers l'est, tu te retrouveras à l'ouest. Tu t'avances et moi, tu sais. Ah, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. Aussi vite que une vie de papillon, c'est deux jours environ. C'est court et c'est long quand on est total à l'ouest. Le temps est bien plus digeste sur ton me très très de nièce. Oh, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. Bien sûr, tu ne vois rien, tu comprends rien, tu sais pas bien, mais au moins tu ne connais pas la vie de ces gens qui parlent en statisticien. De ces gens académiciens, total GPS, pas total à l'ouest.
Total à l'ouest,
pas total à l'ouest.
Total à l'ouest,
pas total à l'ouest.
Total à l'ouest,
pas à l'ouest.
À l'ouest,
à l'ouest,
à l'ouest.
Total à l'ouest,
pas total à l'ouest.
Total à l'ouest,
pas total à l'ouest.
Total à l'ouest,
pas total à l'ouest.
Je sais que mes bocaux de carottes surie ne vont pas sauver la planète, mais la fermentation offre la possibilité de m'inscrire dans une approche à la fois plus riche et plus respectueuse du vivant invisible, au contraire d'une industrie agroalimentaire produisant des denrées hors sol et inertes, pauvres en bactéries et en nutriments biodisponibles. Mais ce qui frappe en premier lieu quand on enrichit son assiette avec des aliments fermentés, c'est surtout de réapprendre le goût et de redécouvrir la richesse chromatique des saveurs. Tiens, Nuendo, j'ai picoré ce passage, page 68, de votre texte « Fermentation-rébellion » parce qu'il résume, à mon sens, assez bien ce que vous appelez votre petite philosophie de la fermentation. La fermentation, c'est évidemment des gestes, des techniques, c'est des proportions. Mais j'ai presque envie de dire que la fermentation, c'est beaucoup plus que des recettes. Et c'est tout l'intérêt de lire votre livre. C'est quoi pour vous, la fermentation ?
Alors, c'est exactement ça. C'est vraiment... Quand nous sommes installés comme vignerons à Combriac, il y a eu toute cette volonté de préserver le vivant, la biodiversité, la diversité variétale par rapport aux cépages qu'on plantait, les essences d'arbres qu'on choisissait, même les races d'animaux qu'on décidait d'élever. Mais très vite, le constat était qu'il y avait tout ce vivant visible, mais aussi le vivant invisible. Et tous ces micro-organismes, en fait, c'est la base de la vie. Et sans ces micro-organismes, il n'y a pas de sol. Mais aussi, au cœur même de notre métier, il n'y a pas de fermentation. Et donc, cette sensibilisation, elle est venue de manière très naturelle et de se dire, en fait, il y a une vraie philosophie du vivant, un éloge des micro-organismes qui sous-tend toute la pratique de la fermentation. Et c'est une fermentation qui est quelque part universelle, elle nous relie à l'humanité entière. C'est quelque chose qui est pratiqué par tout le monde, dans toutes les civilisations, toutes les cultures, tous les pays, à toute époque. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas fermenté sur Terre.
Alors Ewen, vous pratiquez ce que l'on pourrait appeler une écologie de terrain, après avoir été plutôt dans une écologie de bureau, une écologie bureaucratique, exact. Pourrait-on dire. Ça veut dire que, dans votre cas, fermentation rime avec reconversion. Il n'y a pas grand-chose qui vous prédestinait forcément à vous retrouver comme ça, du côté de la Dordogne, à pratiquer la cueillette, la culture, la fermentation.
Exactement, moi j'ai un parcours de droit, donc j'ai étudié le droit européen pour me retrouver à Bruxelles, donc voilà, dans les instances européennes ou à côté. Mm-hmm. Après je suis devenue conseillère juridique en droit de l'environnement, donc sur les questions de la biodiversité et de la protection de la nature. Et c'est vraiment ça qui m'a sensibilisée d'une part à la nature, mais c'est vrai qu'il y avait cette envie d'aller plus loin, de mettre les mains dans la terre, d'avoir plus de sens par une pratique agricole, donc une vraie pratique manuelle. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en Dordogne avec Florent à penser, à essayer de mettre en place de nouvelles pratiques agricoles. Et donc c'est pour dire aussi que la fermentation c'est quelque chose de très accessible. Moi j'ai fait des études littéraires, pas du tout scientifiques, je ne connais rien en chimie et en bio. Et vraiment la fermentation, il y a quelque chose d'intuitif, c'est empirique. Donc moi comme toute l'humanité entière, on a pratiqué la fermentation de manière à tâtonner, à expérimenter, à goûter et à découvrir un univers qui est fascinant finalement.
Le vigneron Florent, que vous avez rencontré et dont vous partagez la vie,
oui.
Vous l'avez rejoint dans le domaine familial viticole, là ça va intéresser Dominique Hutin, en 2018, pratique lui aussi, avec vous,
oui.
Une fermentation naturelle. On parle d'une fermentation alcoolique qui consiste à transformer les raisins que vous récoltez en vin, et tout ça se passe selon justement une transformation naturelle, ce qui n'est pas toujours le cas dans la viticulture.
Exactement, c'est ça. C'est que nous avons fait le choix d'utiliser les levures indigènes, c'est-à-dire que ce sont les levures, donc les micro-organismes qui se trouvent naturellement présents sur les raisins pour faire partir la fermentation de manière spontanée. Donc il faut savoir que 99% de la vinification utilise des sachets en poudre, de la même manière qu'on fait le pain au levain ou bien du pain en utilisant de la levure sèche de boulanger. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser ce qui nous entourait, donc ce vivant, qui finalement permet une fermentation tout à fait naturelle. C'est un processus naturel, c'est un processus qui n'a pas besoin de l'intervention des êtres humains. Elle existe dans la nature. Si vous laissez des fruits sur l'arbre et si vous ne les récoltez pas, il va y avoir une fermentation alcoolique. C'est tout à fait naturel. Si vous laissez du lait quelques heures ou quelques jours, ça va commencer à cailler, il va y avoir une transformation, une fermentation qui va opérer.
Il y a donc processus naturel et ces processus naturels ont été peu à peu domptés évidemment par l'homme. On peut dire que la fermentation a accompagné l'humanité dans toute sa diversité de culture et de civilisation d'ailleurs. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Essayons de lever un paradoxe. Les produits fermentés nous entourent, on l'a vu, partout. La littérature est très abondante sur le sujet. Nous qui observons, Céline Maguet, la gastronomie, on ne peut que constater qu'on n'a jamais eu autant affaire à des produits, des préparations, des condiments fermentés, dans les restaurants, dans les bistrots, un peu partout, hein, à tous les étages de la gastronomie.
Et on le voit même avec des choses basiques comme les citrons confits qu'on voit partout et comme justement des rhubarbes maintenant fermentés, on le voit dans beaucoup beaucoup d'assiettes.
Des missos, des sauces, c'est tout à fait impressionnant. Et en même temps, la fermentation fait peur, c'est ça ce paradoxe. Il y a ce côté que vous évoquez très bien dans votre essai, ce côté contradictoire, passion, répulsion. La fermentation, c'est aussi un truc d'apprenti sorcier, non ?
Alors c'est vrai qu'on se dit alors d'apprenti sorcier, mais parce qu'on comprend pas toujours ce qui se passe, on comprend pas ces micro-organismes, c'est invisible qui agit. Il y a ce côté un peu, on pense souvent moisissure, putréfaction, ça fait peur. Mais ça, c'est totalement culturel. Finalement, on est toujours le pourri de quelqu'un d'autre. Moi, mes parents refusaient. Je suis vietnamienne d'origine. Mes parents refusaient d'avoir du fromage à la maison, alors que quand on ouvrait les placards, c'était la sauce Nurmam. Des pâtes de crevettes fermentées, ça sent fort, comme un fromage.
Vous racontez une anecdote qui est assez émouvante et qui montre comment les produits fermentés peuvent repousser certains, selon évidemment le contexte culturel. Vous avez senti, quand vous étiez jeune, un vrai décalage avec un camarade de classe, quand vous lui avez fait découvrir une préparation vietnamienne qui était une horreur pour lui.
Pour lui, ça sentait la poubelle. En fait, il a ouvert un placard à la maison. Et donc, c'est là qu'on conservait toutes les sauces de crevettes fermentées, de poissons fermentés. Et donc, il s'est écrié « Ça sent la poubelle ! Ah, quelle horreur, ça sent la poubelle !» Et donc, j'ai vraiment ressenti cette honte, ce jour-là, d'être différente, déjà. Donc, ça renvoie aussi à une étrangeté.
Vous auriez dû lui répondre « T'as vu la gueule de ton époisse ?»
Exactement. Mais voilà. Donc, et puis, en plus, ça s'est accentué maintenant, parce qu'on vit vraiment dans une société javelisée. On va à la chasse aux germes. Le Covid a accentué ça aussi. On met du gel hydroalcoolique tout le temps. Voilà, donc on a jeté l'opprobre sur 90% des micro-organismes, alors qu'elles sont bénéfiques pour la vie et pour la santé et pour notre organisation sociétale, finalement. Oui.
Il y a parfois quand même des raisons de s'inquiéter. Dans l'esprit du consommateur, avec, il faut bien le dire, quelques cas d'intoxication très médiatisée ces dernières années, conserve égale risque d'empoisonnement avec des agents pathogènes comme le botulisme. Mais vous expliquez dans votre livre que la fermentation, si elle est bien menée, la lactofermentation, est justement presque un paratonnerre contre tous ces agents pathogènes.
Tout à fait, la lactofermentation, c'est vraiment le moyen le plus accessible et sécuritaire de conserver les légumes, typiquement, puisque si vous ratez une lactofermentation, ça sent mauvais. Et donc, même votre organisme, naturellement, n'ira jamais piocher là-dedans, il n'ira jamais manger ça. Alors que le botulisme, si une conserve est mal stérilisée, ou si vous mettez des légumes dans de l'huile en vous disant que l'huile va conserver, non, ça ne conserve pas. La fermentation, historiquement, elle existe depuis toujours parce que c'était le seul moyen de conserver des aliments qui sinon se gâteraient trop rapidement, le lait, la viande. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de réfrigération, il n'y avait pas de congélation, il n'y avait pas de stérilisation, qui est une méthode finalement très récente. Et donc l'humanité a pu survivre grâce à la fermentation.
À la fin de votre essai Fermentation Rébellion, UN, il y a justement un petit cahier de recettes avec une première saumure de base qui permet de conserver à peu près tout,
tous les légumes,
à l'exception peut-être des courgettes qui se transforment
oui,
en purée.
Mais sinon, voilà.
Tout ce qui concerne les tubercules, les carottes...
Les navets, les choux, vraiment tout, les tomates. Donc c'est toujours la même recette. C'est 30 grammes de sel par litre d'eau. Vous préparez cette saumure qu'ensuite vous allez verser sur vos légumes qui ne sont pas cuits. Il n'y a aucune cuisson à aucun moment. Il ne faut pas stériliser les bocaux avant. Il ne faut pas cuire les légumes. C'est la saumure qui va créer un environnement favorable aux bactéries lactiques qui va ensuite acidifier le milieu et qui va permettre une conservation sur le long terme de manière totalement sécuritaire. Donc c'est là que c'est écologique aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas d'énergie qui est requise. Et en plus, vous faites dans l'anti-gaspi, quand vous avez trop de choses dans le jardin ou des aliments qui vont bientôt... Enfin, ou voilà, vous avez une abondance de choses, et bien hop, une petite lac-fermentation et ça permet de conserver de manière indéfinie.
Enfin, on va pas dire pour l'éternité, mais conserver très 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 longtemps, la saumure est justement cet équilibre qui permet de rendre quasiment les légumes à l'intérieur du bocal immortels.
Quelque part, on touche une certaine forme d'immortalité, donc on atteint le Graal que tout être humain a toujours voulu achever, mais c'est vrai que c'est une manière de préserver... 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je pioche encore dans mes tomates lactofermentées d'il y a 3 ans.
Incroyable.
Donc, c'est absolument incroyable.
Est-ce que vous avez retenu l'équation pour la saumure de base, pour lactofermenter des légumes ? 1 litre d'eau filtrée et...
30 grammes de sel.
Bravo. 30 grammes de gros sel non traité, évidemment. On se tourne de préférence vers des légumes qui n'ont pas été traités, pas de traces de pesticides, qui pourraient ralentir d'ailleurs les processus de fermentation. Plutôt du bio ou du cultivé maison.
Exactement, plutôt du bio, parce que c'est vrai que les pesticides, toutes ces choses-là, sont des produits chimiques qui, en fait, détruisent les micro-organismes. Or, on a besoin des micro-organismes, des bactéries, des levures.
À ce titre-là, vous parliez de vin naturel tout à l'heure. Il y a quand même un paradoxe, on redécouvre des méthodes dites simples. Vous parliez d'empirisme tout à l'heure. À l'instant où on a des agricultures, et je compte la viticulture au premier rang de ces questions-là, qui s'interrogent sur leurs propres abus, le vin naturel a la valeur de laboratoire, comme le bio historique a pu l'être à un moment.
Tout à fait.
Donc les conventionnels regardent par-dessus la haie, s'interrogent, dénigrent parfois, mais au final, ce sont des idées qui finissent par infuser sur un certain nombre de modèles de production. Et en ça, c'est intéressant.
Et puis on peut changer aussi de manière de penser.
Jouer avec le vivant.
Le vivant. Et en fait, c'est vrai que là
pactiser
où
avec lui.
On est toujours sur la putréfaction, cette idée de putréfaction, mais en fait, il faudrait dire que tout ce qui est conventionnel est plutôt dans un état de momification. On a vraiment ce côté de momification du vivant. Il n'y a plus de vivant, en fait.
UN, est-ce que ce petit fruit qui est dans ce petit gobelet a subi justement la fameuse lactofermentation que vous évoquez ?
Donc ça, c'est le fruit du prunelier, la prunelle. Donc c'est un fruit qui pousse à l'état sauvage. Il y en a partout en France. France, dans les champêtres. Et donc, c'est un petit fruit qui... Il y a un noyau dedans, attention, c'est un petit fruit
qui... Je viens de me casser une molaire, ça va.
...qui n'est pas comestible tel quel. Ou s'il est comestible, c'est comme l'olive. Si vous... Avez-vous déjà essayé de prendre une olive sur l'arbre ?
Oui, c'est impossible, voilà, c'est amer, c'est astringent, c'est absolument immangeable. Et la prunelle, c'est un peu la
même
histoire.
C'est exactement la même chose. Et en fait, comme l'olive, la prunelle a besoin d'une lactofermentation pour qu'il y ait une modification... De texture, de goût chimique qui va la rendre comestible. Et donc, c'est un petit fruit qui va ensuite développer des aromatiques de noyaux de cerise, d'amandes.
D'amandes
amères.
C'est très doux, la consistance est
fou. Le côté amarena.
Farineuse presque.
Un peu farineuse. Et après, les associations qu'on peut faire avec ce fruit local, sauvage, qui pousse de manière abondante, absolument incroyable. Moi, je la sers avec une burrata bien crémeuse et un peu d'huile d'amandon, de pruneau d'Agen.
Ah, carrément.
Voilà, de la maison Martinet, qui est un producteur de noisettes. Et donc, ça va venir renforcer le goût, justement, de noyaux de cerise. De la prunelle.
Ah, c'est étonnant, toute cette aromatique incroyable. Autour de l'amande amère qu'on peut retrouver aussi dans la famille des umé, umeshu, umeboshi, du côté du Japon. On le retrouve avec ce fruit du prunelier lactofermenté par les soins de UN. Bravo, c'est délicieux.
Ouais,
vous nous avez apporté un petit bocal, non pour...
Oui, voilà, je vous ai apporté ici... des petites prunelles.
Génial.
Et donc le jus de fermentation se boit aussi. On peut en faire des cocktails, on peut le mettre dans l'assaisonnement des salades. Enfin voilà, c'est fantastique.
Génial, merci beaucoup. La chronique de Céline Maguet.
France Inter. On va déguster.
Céline Maguet pousse un cri d'amour avec accessoirement la bouche en feu.
Là.
J'adore le piment. En fait, je l'aime pour son ardeur qui fait monter le rouge aux joues, mais surtout je l'aime pour la subtilité de chacune de ses variétés. Il peut être fumé, floral, fruité, épicé, chocolaté. Et depuis 4 ans, en fait, à chaque début d'automne, j'ai la même routine. Quand les maraîchers arrachent leurs plants de piment, je rafle le tout. Et en 4 ans, j'ai eu le temps de faire un petit tour de France des maraîchers et des piments. Les habaneros des trois parcelles dans le Loiret. Les piments calabrais de Limont-Toulotte en Seine-et-Marne.
Super maraîcher.
La sucette de Provence, d'auprès de la Nesque dans le Vaucluse. Et cette année, les jalapeños de la ferme du Pas-de-Côté dans l'Essonne. Et tous ces piments, bah, je les fais fermenter. Parce qu'en fait, la fermentation, elle a ce pouvoir magique de faire ressortir les aromatiques de chaque cultivar. Elle semble même les décupler. Devant vous, preuve à l'appui, vous avez deux sauces pimentées. La petite jaune, là, c'est fait avec des bonnets d'évêque, très doux, pour les palais peu aguerris. Ouais. Ce n'est pas un piège.
C'est très doux, on connaît.
Commencez par là.
Piège, ouais. J'ai failli mourir sur scène une fois avec cette blague.
Et la deuxième...
On le régale.
Là, vous avez vraiment ce côté un peu...
Enfin, très doux.
Très doux.
Je ne sais pas ce que ça va être le fond, parce que...
Là, vous avez ce côté... Vous avez quand même l'acidité, légèrement salé, et en même temps, c'est... Bon, j'avoue, je l'ai rallongé avec des tomates fermentées. Oh, pour les palais peu aguerris. Et ensuite, vous avez la rouge, qui est plus corsée, je vous préviens.
Ah.
C'est des sucettes de Provence, donc une variété de piment qu'on retrouve, logiquement, en Provence. Et ça, il y a un petit goût de bonbon anglais. Ah, je vois que François Régis, il va très légèrement.
Pardon.
En fait, au-delà
de 18, les pompiers.
ça chauffe un peu, ouais.
Ça commence là. Hein. Au début, ça paraît innocent. C'est sur le final. En fait, au-delà du goût, la fermentation accroît surtout la disponibilité des vitamines et nutriments présents dans le piment et favorise leur absorption. Donc là, au vu de vos têtes un peu rougies, vous venez de découvrir qu'elle multiplie aussi la capsaïcine, la molécule responsable de la force des piments, de leur ardeur. Et c'est amusant parce que cette même capsaïcine, c'est un antibactérien naturel qui peut aussi ralentir, voire empêcher la fermentation des piments, quand il en contient trop. Bon, alors nous, en France, avec nos petits piments, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. On est bien loin du Carolina Reaper et autres piments fous qu'on retrouve. Donc on a de la marge, on peut y aller.
Vous nous donnez, Céline, une recette du coup pour lacto-fermenter les piments que vous ramassez?
Bah vous pouvez vous fier à ce que Yann disait justement, c'est une eau saumurée à 3%, donc vous prévoyez 30 grammes de gros sel par litre d'eau. Vous mettez les piments entiers propres et non abîmés dans un bocal bien nettoyé, donc ceux qui sont un peu fatigués, vous les mettez de côté, vous les mangez autrement. Vous versez l'eau saumurée, vous immergez et vous laissez fermenter pendant au moins 5 semaines. Et après moi en fait ce que j'en fais, c'est que je les mixe en sauce. J'ajoute un peu de saumure. Et pour les rendre liquides, là j'en ai ramené 3 justement pour vous faire goûter. J'attends que vous venez de les goûter, je vais vous faire goûter ensuite l'eau saumurée.
Ah.
Et oui, ça c'est encore un autre piège. En fait, nous on a souvent l'habitude des sauces pimentées du commerce qui sont sirupeuses ou grasses et très souvent cuites. Ça a déjà
on
goûté.
On vient de perdre notre invité.
Donc souvent ces sauces pimentées, elles ont un peu moins d'intérêt nutritionnel parce qu'elles sont cuites. Là, vous avez un condiment qui conserve le goût frais du piment avec la petite pointe d'acidité. Mm-hmm. Moi, ce que je fais avec ces sauces que vous venez de goûter, je les mets dans des salades, sur des poissons crus ou, nec plus ultra, mélangés à l'huile d'olive sur une pizza. À la place de l'huile, souvent l'huile qu'on nous sert, l'huile avec ses piments secs dedans qui... Voilà. Oula.
Non, ça va.
Mais c'est quoi votre projet? Vous avez un truc contre nous? Vous voulez éradiquer l'équipe?
Mais en même temps, il y a tellement de... Il n'y a pas que le piquant, justement. Il y a toute l'ampleur fruitée, il y a toute la complexité du piment.
Et vous avez la subtilité de chaque piment, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est de les faire en monovariétal, pour vraiment aller plus loin que l'ardeur. Donc là, vous avez donc la saumure que vous venez de goûter. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique?
Mais rien, plus rien du tout. Non, mais je crois que si on allume une cigarette, on fait sauter la maison de la radio. Là.
En fait, c'est une saumure de piment habanero que j'ai mis à fermenter il y a un mois avec Anne Fleur, la maraîchère à la ferme du Pas-de-Côté qui est près d'Orly, à 20 km de Paris.
Mm-hmm.
Et alors, cette saumure, vous pouvez la boire telle qu'elle. Bon, peut-être pas pour vous, Dominique. Vous pouvez aussi la diluer avec de l'eau de tomate pour atténuer le brûlant et faire un petit cocktail sans alcool ou même en cocktail avec alcool, avec un mezcal.
Donc oui. Les drogues dures plus les drogues dures,
voilà.
Parfait, très bien.
Et elle pourrait faire un cocktail eau en piment. Vous pouvez aussi la cuisiner, par exemple en remplacement d'un bouillon. Vous ne salez pas la préparation et vous faites par exemple un dalle de lentilles corail. Ça marche très très bien. Mais moi en fait, en réalité, je n'ai rien inventé avec mes piments fermentés. On les retrouve dans de nombreuses cultures. Et même dans vos frigos, il y a de fortes chances que vous en ayez. En effet, la plus connue des sauces pimentées est fermentée.
Ah bon?
Est-ce que vous avez une idée?
Ah, vous voulez parler de cette sauce américaine qui commence par un T?
Tabasco.
Tabasco, c'est pimenté. C'est fermenté.
C'est fermenté. La sauce Tabasco, qui est née en Louisiane, en plein pays cajun, au milieu du 19e siècle, est fermentée.
Waouh.
En fait, c'est un banquier en déroute qui planta sur l'île d'Avry, connue pour sa production de sel des piments mexicains, originaire de l'état du
Tabasco. À l'aide de ce sel local, il les faisait fermenter dans des barriques de whisky du Kentucky pendant 3 ans. Un petit ajout de vinaigre pour stabiliser à la fin, et hop, ça partait en bouteille. Et c'est encore la recette du tabasco d'aujourd'hui. Sauf pour les piments, qui ne sont plus produits en Louisiane, mais en Amérique latine. Je pourrais aussi citer le gochujang, pâte de piment au soja fermenté, un indétrônable de la cuisine coréenne, ou encore le yuzu kosho, une association de piment vert et de yuzu, condiment très populaire au Japon.
Et ensuite, c'est sans fin.
C'est sans fin, on peut tout faire en fait. On peut faire de la sauce sriracha avec de l'ail et des piments, de la harissa avec des épices, du piment et de l'ail, toujours. Pour trouver des idées de recettes, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Moi, je me suis mis à la fermentation il y a plusieurs années grâce à l'excellent livre « L'art de la fermentation » de Camille Auger et Luna Kyung. Et ça tombe bien, le livre vient d'être réédité aux éditions La Plage en version enrichie et il contient son lot de recettes pimentées ou non, mais surtout d'explications sur les processus de fermentation.
Un vrai livre de référence, « L'art de la fermentation » de Camille Auger et Luna Kyung, qu'on avait déjà reçu il y a quelques années. On vous a mis le lien de l'émission sur notre site. Aux éditions La Plage. Le piment, ça vous connaît ?
Alors, j'ai la même passion que Céline, c'est que chaque année, en septembre-octobre, je ramasse les piments.
Vous en cultivez ?
J'en cultive un petit peu, les habaneros, et après je fais ma sauce sriracha, et ce qui est magique, c'est que...
Sriracha, vous évoquez donc une sauce pimentée d'origine plutôt thaïlandaise.
Plutôt thaïlandaise, effectivement, et ensuite, je vais récupérer donc, la sauce, mais toute la pulpe, les pépins, etc., je vais la garder aussi, puisque ça a été lacto-fermenté, donc on peut la garder indéfiniment, et je vais l'utiliser pour faire mes kimchi, plutôt que d'utiliser du piment coréen, je vais utiliser ce reste, ce déchet finalement.
Alors on peut les utiliser, moi je les utilise pendant un an, après on a quand même une baisse, c'est toujours bon, mais il y a quand même une baisse des nutriments, des vitamines.
Oui, bien sûr. Oui,
d'accord,
oui.
Vous les utilisez plutôt au début, les rebonds, les ricochets que l'on fait avec nos ateliers fermentation, c'est une discipline, un savoir-faire tout à fait passionnant. Dans un instant, Tien Uendo, vous nous faites déguster un boulgour.
Un boulgour fermenté, donc c'est une recette traditionnelle du Liban.
Au pickles de...
Pétales de rose.
Waouh ! Et puis on mettra le cap évidemment sur la Belgique avec Dominique Hutin pour voir ce que la fermentation peut faire de meilleur dans nos verres. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. De The Cure après 16 ans de fermentation, 16 ans d'absence. C'était A Fragile Thing.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry.
On va déguster.
Fermentons avec Tien Huyen Do, autrice de Fermentation Rébellion, petite philosophie de la fermentation aux éditions des Équateurs. Et il y a sur une petite tranche de pain, dans nos assiettes, sous nos micros, une préparation étonnante, alors qui montre aussi que la fermentation est décidément universelle, qu'elle concerne toutes les cultures culinaires, y compris la culture levantine, orientale.
Exactement. Donc là, c'est du boulgour fermenté. Donc on fait fermenter le boulgour pendant 3 semaines. Et ensuite, on va faire des petites boulettes qu'on va faire sécher et qu'on va pouvoir garder dans l'huile, puisque l'huile, à ce moment-là, n'est pas un problème, puisque la fermentation est à opérer. Et donc, c'est pour montrer vraiment que ça existe partout et que c'est pas... On a parfois l'impression que c'est que la choucroute, voilà. Mais non, la fermentation existe partout, de toutes formes différentes, de manières différentes.
Rappelons ce qu'est le boulgour et comment vous vous y prenez.
Le boulgour, c'est du blé concassé. Donc voilà, il suffit d'acheter du blé concassé.
Quand on trouve en magasin bio.
Partout,
hein.
Exactement. Et puis donc, on va le faire fermenter dans une saumure, pareil. Donc, je crois que les proportions, c'est 2 litres, 2 litres et demi d'eau filtrée avec 150 grammes de sel. Et pendant 3 semaines, on va mélanger tous les jours pour que la fermentation opère. Et ensuite, on va filtrer le tout, on va fabriquer des petites boulettes et on va faire sécher.
Alors, on l'a vu, hein, vous nous l'avez dit, la fermentation a pour avantage d'être anti-gaspi. On peut récupérer des légumes et les faire fermenter et les conserver pendant très longtemps. C'est très peu énergivore, donc pas de dépense d'énergie ou quasiment pas pour faire de la fermentation. Et beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices nous questionnent et nous interrogent sur les bienfaits supposés nutritionnels de la fermentation. Élise des Côtes d'Armor, est-ce bon pour la santé? On dit souvent que la choucroute possède plus de vitamine C que le chou cru. Est-ce vrai? Et comment est-ce possible?
C'est vrai, il y aurait tellement de choses à dire sur les bénéfices sur la santé de la fermentation. Pour résumer, on peut dire effectivement que ça permet de mieux assimiler certaines vitamines, de multiplier la présence de cette vitamine dans l'aliment. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça permet de lutter contre certaines maladies, l'asthme, les allergies, etc. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que ça renforce la flore intestinale, ça permet de booster le système immunitaire, et aussi, qui dit flore intestinale plus diverse et en meilleure santé, dit aussi cerveau en meilleure santé, puisqu'il y a un lien direct entre les deux. Donc ça veut dire qu'on peut se passer d'antidépresseurs, ça permet aussi de mieux sociabiliser. Des études montrent que la fermentation, les bonnes bactéries rendent plus sociables. Donc effectivement, il y a énormément de bénéfices dans la fermentation.
À l'heure où l'on achète des probiotiques à tire-larigot en pharmacie, probiotiques sont naturellement contenus dans ces produits fermentés.
Exactement, c'est hors de prix les probiotiques. Mais là, on peut faire... Il ne faut pas manger que la lactofermentation, mais manger un peu de pain, un peu de sauce soja, un peu de tous les aliments fermentés et vous serez en bonne santé.
Vous évoquez même une étude dans votre livre, certains produits comme le natto japonais, vous savez, ces graines de soja fermentées qui sont entourées
visqueuse.
Comme ça d'une petite substance gluante, développeraient des enzymes uniques, très intéressantes vis-à-vis de certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer, certaines maladies artérielles, protection contre l'AVC, l'hypertension.
Exactement. Les études commencent parce que la fermentation, le monde du microbiote, la microbiologie est très complexe, mais voilà, il y a des prémices d'études qui montrent vraiment qu'il y a un impact très fort sur la santé.
Votre nationalité est belge, hein, on est d'accord?
Je suis belge, oui.
Bon, ça vous dit qu'on aille faire un petit voyage liquide du côté de la Belgique?
Ah ben volontiers.
Grâce à Dominique Hutin.
On va déguster. Sur France Inter.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin.
Et ça sent la bière dans le studio de...
Mais
on va déguster.
Bien sûr, Jacques Brel de la bière de Londres à Berlin. Et que trouve-t-on sur cette ligne tracée entre ces deux capitales? Eh bien, une troisième capitale, mais pas n'importe laquelle. Bruxelles, capitale de la bière, dont la culture d'ailleurs est classée au patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Je vous propose donc qu'on aille explorer cette Belgique brassicole, mais attention, sous un angle de ce qu'elle a de plus singulier, une bière qui a forgé l'identité bruxelloise, une rareté qui a failli disparaître. Vous connaissez peut-être? Non, je vous donne une piste grâce à un extrait de la TV belge de 1974.
La gueuse a mis ses liqueurs que le bon bruxellois vénère, le plaisir qu'elle
est. Et donc oui, l'hymne de la gueuse, la liqueur que chaque bon bruxellois vénère. Alors, vous noterez quand même qu'on a trouvé quelqu'un qui chante plus mal que moi. Donc s'il pleut aujourd'hui, vous saurez pourquoi. Reste une question, qu'est-ce que cette gueuse? Qu'est-ce que cette véritable anomalie dans le paysage de la bière. Alors, les paroles de cet hymne à la gueuse évoquent aussi le houblon. Le houblon, vous connaissez, c'est cette plante qu'on utilise pour protéger la bière, pour l'aromatiser, pour apporter de l'amertume. Eh bien, en matière de gueuse, vous pouvez oublier ce volet amertume. Le profil de la gueuse est hérissé de 1000 crêtes d'acidité. De l'acidité, parfois rehaussée de notes de tanin, de notes boisées ou fruitées. Tout ce qui, évidemment, peut désarçonner les palais au goût formé par les bières un peu consensuelles, pour ne pas dire industrielles, qui sont souvent arc-boutées sur le sucre, évidemment. Alors, reste une question. Qu'est-ce qu'on boit ? Vous avez goûté ? Les gueuses sont de vos verres. La première, vous en avez plusieurs d'ailleurs, tiens, j'ai distribué les choses un petit peu différemment.
Moi, j'en ai une teintée de rouge.
Oui, alors on va y venir, mais surtout vous pourrez vous connecter sur notre site, puisque j'en ai goûté à peu près 20 à 25. Alors d'être super classique, l'emblématique Cantillon, à et qui oui. on doit beaucoup pour la résurrection, la préservation de cette gueuse.
À Anderlecht, à Bruxelles.
Et Tilquin, très appliqué. Et puis d'autres moins connus, comme Donder, comme... bon, il y en a 20, je ne vais pas tous les citer, mais Questemont, etc., Bruxelles, Beer Project, Burneff, bon. Vous les trouverez, vous téléchargez le guide, comme d'habitude. Et dans ce panorama, vous trouverez une petite coquetterie, vous l'avez déjà remarqué, François-Régis, une gueuse rouge.
Et oui.
Mais alors cette gueuse rouge, on est obligé de vous la raconter avec l'accent.
Dérivée du lambic, la crique, bière mélangée de cerises, dont on retire ici les noyaux. Mais pas n'importe quelle cerise. La cerise de Scarbec, la seule qui lui confère toute sa saveur.
On évoquait le goût de noyau, UN, il y a un instant, grâce à vos prunelles lacto-fermentées, prunelles sauvages. Là, on est carrément dans cette aromatique, c'est une ouais. gueuse superbe.
Et vous l'avez entendu avec des vraies cerises de Scarbec. Je ne sais pas si j'ai le bon accent réglementaire.
Scarbec, tout à fait.
Donc des bières à la cerise, les véritables criques, qui n'ont rien à voir avec les criques de comptoir, évidemment. Qui sont des ersatz, avec des arômes, avec des édulcorants, pan, encore du sucre, qui sont en fait plus traîtres qu'ambassadeurs, au final. Et pour comprendre ce qui forme ce goût quand même très singulier de ces bières vivantes, des bières qui vont se conserver jusqu'à 30 ans, comme le vin, cher ami. Donc des bières avec un goût évolutif, évidemment. On va consacrer une toute petite minute savante pour comprendre tout ça. La gueuse, c'est d'abord un territoire qui est formé autour de Bruxelles et son périmètre ouest. Le Pajottenland, vous connaissez. La vallée de la Seine. Alors attention, la vallée de la Seine, S-E-2-N-E. Et ensuite, la gueuse, c'est spécialement issue d'une fermentation spontanée, contrairement aux bières, disons, classiques, qui sont ensemencées avec des levures sélectionnées. Et puis, cette fermentation, elle est déclenchée par des levures sauvages, accrochez-vous, de l'air ambiant. Et ces levures sont à ce point locales qu'elles portent le nom de Brettanomyces bruxellensis. Vous entendez le mot Bruxelles. Elles sont épaulées par les levures qui s'appellent Brettanomyces lambicus. Et là, on entend le mot lambic. Qu'est-ce que c'est que le lambic ? Le lambic, c'est la première expression lagueuse. Et voilà. Lambic, c'est une bière qui naît d'abord plate, qui va vieillir en fût, sans bulles. Donc, et puis par assemblage de lambics d'âges différents, de 1, 2, 3 ans, qui vont être assemblés et mis en bouteille. Là, ça va déclencher une deuxième fermentation en bouteille, donc, qui vont faire naître les bulles dans la bouteille. Et cet assemblage de lambics, devenu pétillant, gagne alors le nom de gueuse. Et c'est un patrimoine qu'il faut vraiment protéger. D'ailleurs, il y a une IGP qui est dans les tuyaux. Et cette bière a failli disparaître parce qu'elle a besoin de certaines températures et le climat, le réchauffement, met à mal toute cette question-là. Et en final, avec ces bières de fermentation spontanée, vous pouvez considérer que lorsque vous arrivez dans une brasserie de gueuse, vous mettez la main sur un gisement de gaz naturel, au final. Pour conclure, service oblique, service public oblige.
On crée de l'énergie, c'est
voilà,
ça.
Voilà, on va rajouter une... On va augmenter cette chronique d'un petit bulletin météo, pardon, c'est la gueuse. Un petit bulletin météo, cher ami, c'est parti.
Il pleut de la bière, il pleut de la bière. Il pleut de la bière, il pleut de la bière.
Vous n'avez pas honte, Dominique. Et la gueuse des lambics, la gueuse coule dans nos verres. Vous avez l'air d'apprécier Céline Maguet.
Mais c'est vrai que ça fait un peu penser au vin, d'ailleurs, plus qu'à de la bière, je trouve, dans l'arôme. Et surtout, il y a ce côté...
C'est un vin de céréales, en fait.
En effet, moi, j'ai la gueuse donc, dorée dans mon verre. Et il y a aussi ce côté très floral. L'acidité, au final, disparaît un peu, je trouve, pour ce côté floral qui prend le dessus. Mais il y a un côté aussi musqué. un peu terrien.
Oui, vous pourrez les goûter au bout de 20 ans, 30 ans, comme les vins, ils évoluent. Et il y a beaucoup de créativité, c'est aussi un des talents de la bière, d'ailleurs, avec, on parlait de Cantillon tout à l'heure, qui assemble avec des vins, qui va faire vieillir dans des fûts de vin. Donc, il y a vraiment une capillarité, un esprit commun entre ces deux univers.
Et vous nous rappelez que vous avez dégusté plusieurs gueuses pour
25
nous.
25 à télécharger sur notre site, avec les prix, les coordonnées, les commentaires.
C'est un univers qui vous intéresse, Tian Huendo?
Alors, moi, j'adore. En plus, c'est ce côté nostalgie, la fermentation, et ce côté philosophique que ça nous rappelle. Donc moi, en tant que Belge, il y a un côté très nostalgique à entendre parler et à déguster des gueuses. Et ça nous intéresse. Nous, on a du houblon sur le domaine à Combriac. Et on est en train de faire, justement, une bière en fermentation spontanée avec notre propre moût de raisin. Et que c'est en train d'être élevé pour le moment dans nos barriques.
Donc, alors, on l'a vu, vous le racontez, Tian Huendo, dans votre livre. La fermentation, c'est une pratique culinaire que vous exercez tous les jours. C'est une écologie du quotidien, et c'est bien dit. Et c'est même, et c'est vraiment tout l'intérêt de la lecture de votre essai, c'est même une activité qui a une portée, selon vous, politique. La fermentation s'affiche comme un outil de transformation sociale puissant, en particulier au regard du système capitaliste. Fin de citation, justifiez-vous.
Exactement, c'est dans un monde qui est maintenant standardisé, normalisé par l'industrie agroalimentaire, par l'agriculture intensive et productiviste, on est vraiment dans une posture ici de rébellion, fermentation-rébellion, parce que c'est une manière en fait de sortir du capitalisme, de se réapproprier notre alimentation, de faire nous-mêmes à la maison, chacun de nous, en fait, on a dans nos bocaux, ou dans notre pain, dans nos yaourts, une sorte de désobéissance civile qui peut être développée.
Il y a dans la fermentation, et ça c'est très intéressant, c'est aussi un aspect un peu oublié ou méconnu, c'est qu'il y a une dimension solidaire et collective dans la pratique de la fermentation, et d'ailleurs vous attristez un peu de constater que les grains de kéfir, que le scoby qui est la mère qui sert à faire du kombucha, qui d'habitude fait l'objet d'échanges, de trocs, ça se donne.
Normalement ça se donne, c'est gratuit.
Comme par hasard, il y a l'agroalimentaire là qui est en train de flairer le filon et qui va faire de la fermentation à nouveau business.
Exactement, normalement c'est un bien commun. La fermentation c'est un bien commun qui nous appartient à tous et à toutes. Et effectivement, la fermentation, vu l'attrait, la manne financière que ça peut être, Pepsi, Danone, se remettre dessus.
Pour penser aux semences aussi qui
exactement.
Non,
attendez, on est même en train de voir apparaître dans les rayons de nos supermarchés des kéfirs. C'est donc cette
petits grains
cette
qui vont
spécialité
permettre la
laitière ou même le kéfir, la boisson.
Oui.
Pasteurisé. Oui. Il y a un contresens total. On est sur une boisson vivante que l'on assomme thermiquement pour en faire un produit standardisé.
Pour la momifier, exactement. En fait, on n'est plus capable aujourd'hui d'accepter l'évolution du goût, un côté aléatoire. Donc on veut maîtriser, on est vraiment dans une société de la maîtrise. Et la fermentation permet justement de lâcher prise, admettre aussi l'échec. C'est une philosophie de l'échec, puisque en fait, on ne réussit pas toujours son pain. Pareil pour le vin.
Oui, c'est voilà, ça, il faut tâtonner aussi.
Il y a des aléas.
Parfois,
ce sont des expérimentations. On réussit, on échoue, et c'est la vie finalement.
C'est une magie.
Et justement, pour que nos auditeurs et auditrices puissent eux aussi tâtonner, j'ai une question qui revient beaucoup. C'est, on parle beaucoup d'eau filtrée, comment on filtre l'eau ?
On filtre l'eau en achetant un filtre. Bon, il y a plein de choses qui existent, différentes de marques, etc. Donc voilà, on filtre l'eau avec un filtre spécifique.
Voilà, où on peut éventuellement acheter de l'eau de source. Enfin, ça, on peut en parler, il y a débat, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui
c'est
d'acheter des bouteilles en plastique.
C'est pas nécessaire, on peut utiliser l'eau du robinet qu'on va faire décanter pour éliminer le chlore, puisque le chlore va avoir un impact sur les micro-organismes. Mais bon, vu voilà, les scandales récents sur l'eau potable, bon, moi, je préfère dire de prendre une eau filtrée.
Eau décantée ou eau filtrée.
Voilà, parfait. Un dernier bocal qu'on ouvre pour nous faire déguster quelque chose de particulier.
Alors, je vous ai apporté des umeboshi de prunes sauvages.
Ah bah, décidément, on est dans l'univers du noyau, très intéressant. Alors là, vous évoquez une préparation typiquement japonaise qui condimente beaucoup la cuisine nippone.
Oui.
Umeboshi, ume, ça veut dire prune.
Prune,
en fait, ça ressemble un peu à un abricot.
Oui, c'est plutôt un abricot, c'est plutôt de la famille des abricotiers. Et là, en fait, on va le saler et ensuite le faire sécher. Donc ça permet à nouveau de garder de manière indéfinie cet aliment, ce condiment, qu'on va utiliser dans la cuisine japonaise. Et il y a aussi ce côté umami, c'est très complexe.
Vous ne goûtez pas, Dominique ?
Oui, bien sûr.
Et donc ce sont des prunes sauvages qui poussent... À nouveau, c'est ça, c'est l'abondance, il y en a partout, on ne sait pas quoi en faire, parce que c'est très acide, on ne sait pas comment les cuisiner, et là, on peut en fait en faire des umeboshi, et c'est délicieux.
C'est tout le secret de la fermentation, c'est que ça dompte des produits, a priori, assez revêches à l'état naturel, qui du coup, par l'effet de la transformation fermentaire, avec les bonnes bactéries, deviennent tout à fait comestibles, et en plus, délicieux. Ça, cette prune fermentée salée, c'est un truc prodigieux en termes de longueur en bouche.
En fait, on quitte le monde du sucré, on a vraiment ce côté salé, on l'imagine en base avec même un poisson et avec du miso aussi.
Oui. Non ? Vous vouliez dire un
non,
petit
non,
mot ?
Non, mais après, c'est vraiment ça, on va transformer la texture, on va transformer le goût, et c'est un monde créatif, en fait, c'est sans fin. Une fois qu'on rentre dans le monde de la fermentation, il n'y a pas de porte de sortie.
Il y a matière à penser la fermentation, à la pratiquer également, puisqu'il y a un petit cahier de recettes à la fin de votre livre. Fermentation, rébellion, petite philosophie de la fermentation aux éditions des Équateurs. Un grand merci, Tian Uendo, d'être venu jusqu'à nous pour éclairer nos lumières. Vraiment, c'était absolument passionnant. Et votre livre est tout à fait recommandable pour ceux qui s'intéressent évidemment au sujet. La semaine prochaine, attention, nous serons à quelques jours de l'élection présidentielle américaine, à quelques semaines de Thanksgiving, on plonge dans les marmites des États-Unis. La cuisine a-t-elle le pouvoir de réconcilier les démocrates et les républicains ? C'est une question qu'on se posera à dimanche prochain. Si vous avez encore faim,